envers la personne à qui j'ai mal agi. Oui. J'ai mal agi. Mais celui qui raisonne en tant que croyant, il sait que c'est envers l'homme, mais ça touche encore une dimension supérieure qui est celle de Dieu.
Ça vaut la peine, c'est la méthodologie, ça vaut la peine. La question de l'équipe de l'homme, c'est la question de la
non, dans le cas.
Mais je vais expliquer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Le hacha, comme on parle, c'est la faute de la Torah. Okay. Toute la Torah, c'est qu'il y a un prochain contre l'homme. La Torah n'est pas d'accord avec toi, selon Rabbi Akiva. C'est-à-dire, d'après un homme de croyance, de conscience religieuse, va voir la gravité dans les relations à l'homme, à l'autre. Et dans beaucoup de moines arrivent dans la même là, Dieu distingue. Et c'est pas simple.
Dans le cadre de votre exposé, la différence entre une conscience religieuse et une conscience chélonite, ce serait que la conscience religieuse a en plus le fait, avec la conscience d'avoir fait une faute, elle a aussi la conscience de ne pas d'avoir perdu une occasion d'acquérir le mérite d'être.
C'est ça la réponse. C'est-à-dire, la conscience morale d'un athée, et je ne nie pas du tout qu'ils aient une expérience morale. C'est une expérience morale d'origine religieuse, mais sans les bases religieuses. Ça, c'est l'histoire. Eh bien, c'est la conscience d'avoir porté atteinte à un certain ordre. Un certain ordre, et c'est grave. Le désordre, c'est bon. Mais pas plus. Et chacun avec son niveau d'expérience morale. Et les grands philosophes, d'ailleurs, athées, qui ont parlé de leur conception de la moralité, n'arrive jamais à nous expliquer ce désordre ou cet ordre, de quel ordre il est. Vous comprenez, mais ils en parlent. Tandis que, alors, de la conscience religieuse, c'est que dans ce geste de désordre, c'est sa destinée qui est en jeu. Donc c'est beaucoup plus grave. Est-ce que c'est clair? Ce que donc, a rappelé le projet de l'acquisition du matériel, donc c'est très très grave. Alors faites attention, il ne faut pas. On étudie, hein. Il ne faut pas à chaque moment de la vie avoir ça en tête, parce que vous savez, vous n'êtes plus âgé. Peut-être je vais déranger dans le projet de la question de tête. Mais pas plus là.
Vous aussi déranger quand on ne agit pas.
Vous
aussi déranger.
Non, c'est une des catégories d'art de l'autre. Je rappelle un ancien mandat de maman, qui peut le dire, ce qu'il dit. Et si il va qui est le rap, il dit, malheur à moi si je pars, malheur à moi si je me tais. Bon, on peut le dire aussi, malheur à moi si j'agis, je ne sais pas, mais malheur à moi si je ne pars. Bon,
c'est Rabbi Shimon.
Bon, c'est Rabbi Shimon. Et ça veut dire que, surtout à votre âge, faites attention, vous n'allez pas automatiquement être paralysé par les choses que vous avez connues. Mais il faut les apprendre, les comprendre, les intégrer, et puis savoir comment les diriger. Est-ce que c'est clair? Je sais par expérience, par exemple, pédagogique, il y a des connaissances qu'on acquiert qui, à fois, qui paralysent. Alors, dès qu'on l'a dit, quand j'ai appris ça, même après, j'ai eu des enfants et des petits-enfants. Alors, je vais y aller, c'est que nous avons donc une préface, donc un des premiers enseignements, ça en mandel, un des premiers enseignements, c'est cela, il y a un projet, il y a un commencement. Je vous dis en hébreu, c'est une des méthodes de l'air famille, qui nous montre que le mot de réchim, qui signifie le commencement, a le même être que le mot de chéhérit, ce qui reste à la fin. C'est-à-dire un réchim mène un chéhérit. C'est clair ce que je dis là. C'est-à-dire, il y a ici une conception du temps, que le temps a une finalité, que cela mène quelque part. Parce qu'au commencement, il y avait un produit. Vous avez bien compris cela? Bon. Alors, nous avons posé la question suivante, dans la deuxième partie du cours. Quelle est la structure du plan de ce récit? Les six jours qui mènent à un septième. Pourquoi je vous tente de vous terminer complètement de cette première idée, mais au moins l'essentiel qui nous donnera une sorte de principe d'organisation des récits de la vie. Nous allons atteindre là, mettre en évidence un plan de structure qui est le plan de structure de tout le récit de vie. Et vous allez être frappé par cela. Il y a une sorte de rythme dans ces récits. J'espère que vous avez lu ce premier chapitre, peut-être déjà. Une sorte de rythme. Nous allons étudier, qui se reproduit dans les récits de chacun des six jours, que nous allons étudier à propos du premier jour, c'est le plus simple pour notre sujet. Alors prenez à partir du verset 3, il me semble. À partir du verset 3. deux premiers versets, je mets la secondeur de l'étude, simplement je les rappelle. Au commencement, Dieu fait le ciel et la terre. Deuxième verset, qui est très difficile. Et la terre était chaos, obscurité, vide. Et le roi Elohim et la chèvre est appelé à et le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu planait, voltait littéralement sur la surface des eaux. On comprend. On sait qu'il y a un chaos qui va être organisé. Alors, récit du premier jour. Voyons le récit. Et Dieu dit, Yéhi O, qu'il y ait lumière. Yéhi O, il y eut. Je vais m'occuper de ce premier verset. Il y a là deux niveaux qui ont été les deux premiers moments du plan que nous cherchons. Et d'abord, la formulation du projet lui-même, qu'il y ait ceci, un projet. Et ensuite, le récit de ce qu'il y a eu dans la réalité, et il y vit tout ceci. C'est-à-dire, vous comprenez la forme de l'expression même qu'on peut avoir. Premier point, projet. Deuxième point, réalisation du projet. Dans ce cas, c'est la quatrième légère, c'est ce qui a été dans le projet qu'on retrouve dans la réalité. C'est bien de la lumière qu'il y a eu, d'après le texte. Qui est lumière, c'est lumière qu'il y a eu. Ça va ? Nous verrons dans les autres jours, c'est un peu différent. On verra cette preuve. Ensuite, verset 4. Vayar Elohim est à or. Il y a un jugement porté sur ce qui s'est fait. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Un jugement. Ce jugement n'est pas simple pour étudier. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici ? Il y a aussi un message. Est-ce que Dieu ne sait pas a priori que la lumière c'est meilleur que l'obscurité? Il faut l'apprendre. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Il y a une question là. On ne va pas l'étudier. Je vais la signer en passant pour que ce soit bien clair. Et d'ailleurs en hébreu, ce mot de Dieu dit a un sens un peu différent. C'est-à-dire à approuver. Mais c'est une autre question d'étude. Et donc là, il y a un troisième moment. Après le projet, le récit de l'effort de réalisation du projet est finalement élu, il y a un jugement porté sur ce qu'il y a eu. Et lorsque le jugement est positif, le jugement ne se vante pas être positif. Il a des conséquences. Il y a une séparation entre ce qui, dans la réalité, correspond au projet et ce qui ne correspond pas encore. C'est la fin du verset, et Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. C'est suffisamment clair, je le crois. Nous avons déjà trois moments. Dans le verset précédent, un premier moment, un projet. Un deuxième moment, un projet de vérité. Deuxième moment, le récit dans la réalité. Troisième moment, un jugement. Et séparation, encore une fois, entre ce qui dans la réalité a correspondu au projet et ce qui n'a pas encore correspondu. C'est le troisième moment, le jugement et ses conséquences. C'est très important. Nous avons retrouvé cette ligne de lecture dans tous les récits de la Bible. À chaque étape du temps, il y a un projet. Et on nous raconte comment ça s'est passé. Le résultat, c'est qu'une partie a réussi et l'autre pas encore. Alors il y a séparation. Et vous trouverez dans vos études l'importance de cette catégorie de séparation pour comprendre le jeunesse. Qui est séparé de tout. Vous comprenez ce que dit. Avant dit, le code sur le sol, le nord, le rocher, le mystère, la vie, la réparation, le même principe. Quatrième point, c'est le verset 5. Va y créer au climat orion. De la recherche vers l'Aïla. Il y a une destination donnée à chacune de ces parties. Celle qui a réussi a une destination positive. Celle qui n'a pas encore réussi a aussi une destination positive à notre niveau, mais par rapport à la première négative. Et Dieu nomma la lumière jour et il nomma la lumière l'obscurité nuit. Ou bien c'est une tautologie, Jonas, ou bien c'est de l'ordre de ce que j'essaie de vous expliquer. Parce qu'en hébreu, nommer quelqu'un quelque chose, c'est lui donner une destination. Ça, vous dites déjà d'autre part. Par exemple, quand un enfant naît, alors on l'appelle Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire, on l'appelle Abraham? Ben, ça veut dire que tu seras Abraham. C'est dangereux, hein, de nommer. C'est lui donner. Vous savez qu'il y a des gens qui sont durs à porter. Vous savez? Et alors, primitivement, dans les temps anciens, et c'est ce que la tradition enseigne, il y avait une capacité prophétique des parents qui, lorsque l'enfant naissait, il savait quel nom il avait. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité prophétique. Alors, vous entendez expliquer comme cela, sans le savoir, on est inspiré au moment où on donne le nom que l'on donne. Est-ce que c'est clair? Je dis ça surtout pour ceux qui ont un choix de nom. On ne joue pas avec ça. Avec moi, on est un spécialiste. Et s'il n'y a pas de spécialiste, alors vous faites confiance que Dieu va vous inspirer, qu'il va nous donner un prêtre. Comme dit Marie. Par exemple, ce problème de la nomination des choses et des êtres, c'est le projet de la science. Qu'est-ce que la science cherche? Le vrai nom des choses. Alors il est arrivé finalement à des résultats importants au niveau de la matière. Il n'y a encore aucune science humaine qui sache nommer les êtres, les hommes, disons, les quelqu'un. On sait nommer les choses. Si vous avez un chimie, par exemple, un plan clair, vous êtes un objet. La science qui s'appelle la chimie, c'est de trouver le vrai nom d'un corps pour en connaître le contenu. C'est clair. Alors, en tout cas, au niveau des hommes, on a perdu cette capacité. Vous comprenez que la psychologie qu'on pourrait définir dans ce projet-là est encore dans les balbutiements de l'enfance. Si vous avez des apprentis psychologues parmi vous, vous savez qu'elle ne sait encore même pas définir son objet, la psychologie comme science. Il y a des rivalités entre les centaines d'écoles déjà. Donc, le petit fils, c'est ça, ou c'est ça, le psychologue. Entre-temps, les malades sont. J'aurais bien. Voilà donc quel est notre plan. Non, je vais vous caractériser ce que je viens de dire. On le retrouve dans l'étude que nommer, c'est donner une destination. Les gros péchés. Et j'étais frappé par cela. Il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, croient qu'en donnant le nom d'un grand homme à une école, je ne sais pas quoi, ils lui rendent hommage. Ce que je vais vous dire là, c'est un exemple, c'est pas du tout une méchanceté. Il y a à Paris une école Maïmonide. Qu'est-ce que Maïmonide leur a fait? Vous avez compris ce que vous dites. En principe, c'est pour lui rendre hommage. Mais qu'est-ce que l'école Maïmonide? C'est l'école où Maïmonide enseigne. Vous voyez pas? Par exemple, c'est une école juive, vous savez. Par exemple, il y a un centre Rachid. Je connais. Qu'est-ce que Rachid a marqué? Alors, ils ont mis ça dans une rue qui s'appelle la rue Broca. C'est la Broca là-dedans. Mais par exemple, vous avez le café de la paix. Quel rapport entre le café et la paix? Il y a l'hôtel d'Angleterre. Vous voyez, c'est la convention, c'est contingent, absolument, conventionnel. Alors, quand vous nommez quelqu'un comme vous le nommez, il y a un problème. Alors, c'est pourquoi la tradition dit que quand le père ou la mère dit il, elle s'appellera comme ça, il y a un moment d'inspiration. Il vaut mieux, parce que c'est un chien. Alors, je reviens. Nous avons donc dans ce plan un certain nombre d'étapes. Premièrement, le projet. Deuxièmement, le récit de la réalisation. Troisièmement, le jugement qui implique une séparation. Tout le jugement est une séparation. Et puis, finalement, une destination de ce qui est advenu, arrivé, et un bilan. Et ce fut soir, ce fut matin, je... Voilà votre plan. Ce plan, vous le diagnostiquerez dans le récit des civils. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça se complexifie, si je veux, ça se nuance. Et alors, le temps qu'il reste, on va étudier deux points. La première, c'est qu'il n'y a que le premier jour, dans le récit du premier jour, où c'est bien ce qui a été projeté qui est advenu. Il y a eu « oh, oh ». Bien que les maîtres ont enseigné que le haut, la lumière de la réalité, n'est pas la même que celle du projet, c'est quand même de la lumière. Vous comprenez ce que vous dites? C'est haut. Et le texte est clair, il y a écrit haut. Tandis que tous les autres jours viennent tous à l'expression. Je vous allez prendre, je vais à la fin de tel verset. Je crois que c'est à la fin du verset 7 aussi. C'est l'expression, vous êtes à la fin du verset 7, vous avez l'expression Vahi Chen. Voilà, vous avez déjà compris ce que je veux dire en hébreu. Le texte ne dit plus que c'est ce que Dieu a projeté qu'il y a eu. C'est Vahi Chen. Et il fut ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il en fut ainsi. En français, des traductions, ça a fini par prendre le sens contraire. Que c'était vraiment la même chose. Quand on dit il en fut ainsi, c'est ça qui a eu. Ben, c'est pas du tout ça qui est dit en hébreu. Il n'en fut qu'ainsi. Donc, originellement en français, ainsi ça veut dire comme. Mais, le mot le plus précis, je crois, en français, c'est un mot latin, quasi. Il y a eu à peu près ça. C'est vrai? Vous réfléchissez bien là-dessus. C'est une chose nouvelle que je suis en train d'apprendre là. et qui vient d'un grand maître de la fin du Moyen-Âge, comme ici à Massy, et d'ailleurs dans la Fèche, il a expliqué cela. Et je ne sais pas si vous avez bien entendu, le Bayrén, ça veut dire qu'il y a eu l'apparence de cela, quelque chose qui ressemble. Vous savez que ça veut dire quelque chose ressemble, c'est que c'est différent. Sinon, on dirait pas que ça ressemble. Quand on prend au pied, quand on dit ça ressemble, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Ça ressemble. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors donc, on apprend ici des choses importantes, mais surtout le principe pour nous, c'est qu'il y a un décalage dans la réalité avec ce qu'est le projet. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire, la Bible sait, elle commence par nous le dire. On ne verra pas le projet de ça. Tu nous parles d'un monde parfait, mais notre monde est imparfait. Non, elle nous dit tout à l'heure chose. Il dit le projet, c'est un projet de perfection, on l'abandonne. Mais on l'abandonne, c'est la réalité de l'existence, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un chen, un comme. C'est clair? Alors, c'est pas la peine d'analyser plus, je pense que c'est suffisant. Alors, il y a ici une notion importante dont il faut en tenir compte, et je crois peut-être que nous atteignons là une définition du commencement de la clé. Parce que s'il en est ainsi, c'est-à-dire chaque étape est handicapée par les déchets d'approximation de l'étape précédente. Et le commencement de la clé, c'est d'acquiescer, d'entrer dans un monde où il y a un passé défini, quelque chose qui pèse et qui vient d'avant. Est-ce que c'est clair?
Pourquoi c'est la piété?
Pardon?
Pourquoi c'est la piété?
Pourquoi c'est la piété? Parce que tu peux acquiescer à ça. L'attitude de la révolte, ça consiste à dire tu m'as mis dans un monde tordu, alors je suis tordu. La piété, ça consiste à dire ben voilà l'état du monde, je le prends en charge. Et vous avez compris? J'ai essayé de décrire ça un peu dans la psychologie. Il y a un temps de la crise de l'adolescence où tous les adolescents se préparaient à des héros. Je vais se répondre. Mais j'ai oublié ça. Vous avez sûrement rencontré ça dans votre vie intérieure. Alors c'est le héros romantique, c'est l'âge romantique. Et on est persuadé qu'on va réussir. Ils ont tous échoué, mais avec moi, vous allez voir. Et c'est clair. Et puis très rapidement, on renonce. On renonce. Alors c'est grave, parce que quand on renonce vraiment, alors c'est pas... j'essaie de trouver les mots pour expliquer ce que je veux dire. C'est tout ou rien, alors c'est rien. J'ai demandé de voir ce que c'est que ce fléchissement de l'effort de l'héroïsme, qui est à un certain âge sincère. Et alors, comment ça peut se diagnostiquer? Vous avez entendu une grande vie, Rousseau, Denis, quand il raconte comment l'enfant entre dans la société, c'est la société qui a tout le temps. Lui, il était un saint. Et alors, et comment ça diagnostique? Ah, si ça avait commencé avec moi, vous auriez vu. Mais voilà, ça n'a pas commencé avec moi, je ne suis pas responsable. Voilà. Vous avez compris le terrain. C'est pourquoi je dis que c'est le commencement de la piété, un acquiescement à l'état des choses. Accepter les parents qu'on a eu, par exemple. Vous voyez pourquoi ça va être très important dans la vie commune. Ils font un grand effort, souvent. Et la Torah nous raconte ces histoires. Et c'est pourquoi vous avez Mishnah qui dit, celui qui se demande un certain nombre de questions, mais en particulier qu'est-ce qu'il y a eu avant. Comme c'est le Mishnah. Et la Mishnah dit, une meilleure opportunité. Bien. Est-ce que c'est clair tout de suite? Ça, j'ai tenu à le signaler parce qu'il y a énormément de faux problèmes, d'objections à la Bible, qui viennent de ce qu'on n'a pas lu vraiment, ce que la Bible a dit. Oui, c'est cette espèce de cliché. Que Dieu avait créé un monde parfait, et dès qu'on jette les yeux sur le monde, enfin, dès qu'on perçoit le monde, on sait très bien que c'est pas comme ça. Et alors, la tentative magique d'explication du type chrétien, un péché originel qui a tout détraqué, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose au commencement que la Torah va nous raconter qui est important à apprendre. Mais j'essaie de vous montrer le caractère absurde de la manière dont c'est vécu. Imaginez l'état de chaos du monde. Encore une fois, lisez le monde. Et alors, à cause de quoi? À cause de ce que notre premier ancêtre a mangé une pomme. Là, si vous ramenez quoi, je suis le fou. C'est clair. Et il y a des gens qui suivent. Ok, curieusement. Okay. Ils pourraient manger ça. Tous les recherches là ont mangé une pomme avec du miel. Alors qu'il vaut mieux avouer qu'on ne comprend pas. Et se mettre à étudier pour savoir si on peut comprendre un peu. Est-ce que c'est clair ce qu'il dit? Moi, je suis toujours admiratif, en particulier dans les chrétiens. Qui disent pieusement, avec une conviction sincère, c'est parce qu'il a compris la forme que ça arrive comme ça. Quel rapport?
Mais c'est vrai qu'il y a une régression depuis que Adam a...
C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a des conséquences. Mais tu vois ce qu'il faut. Après, il faut prendre acte, on va reconnaître humblement ton comportement. Et encore, il y a beaucoup de choses pour comprendre. D'ailleurs, Ramban, le même Ramban, d'où on comprend ça. C'est... Tu te souviens de Ramban? Il n'en comprend pas pourquoi c'est écrit. Alors, il dit, c'est pour qu'on en reçoive le message moral qu'on peut comprendre. Maintenant, tu veux comprendre, étudie. Ça, ça s'appelle Kabbalah. C'est vrai? Je veux dire comment le Ramban s'exprime. Il dit, ça, on ne comprend pas. C'est un secret profond et ceux qui le savent doivent le taire. Vous avez compris ce qu'il y a derrière? Si tu as un secret, tu n'as pas le droit de dire que tu as un secret. Et d'ailleurs, comment ceux qui le savent si on doit le taire? Il va mourir, il y a quelque chose de caché là. Il va le malheur. Est-ce que c'est clair? C'est comme si je vous disais, vous voulez voir qu'il n'y a rien là? Et bien voilà, je mets quelque chose et je m'enlève. Vous avez vu qu'il n'y a rien? Mais c'est ça qui est important. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, je te dis, il y a quelque chose à comprendre. Ne quitte pas l'étude tant que tu n'as pas compris. Et si tu as compris, c'est toi. Et comment tu vas comprendre? Eh bien, tu demandes à quelqu'un qui a demandé à quelqu'un qui répond comme ça. Et aussi une autre lecture. Et ceux qui le savent doivent le lire à voix basse. À la suite. Comme ça, ça va même. C'est-à-dire, doivent le dire en langage de mystère. Ceux qui le savent doivent le dire. Mais vous avez bien avec. Quand on a un secret, on n'a pas le droit de dire qu'on a un secret. On l'a déjà dévoilé, on dit qu'on a un secret. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu sais, tout ça, c'est secret. Ça veut dire, ne quitte pas l'étude tant que tu as compris. Bien. Et donc, attendez, rapidement, de quoi on parlait, parce que Rambal, tu nous as demandé à ce moment.
La pomme.
La pomme.
J'imagine.
Racontez une affaire. Et ne croyez pas que c'est pas écrit, je ne peux pas étudier pour comprendre ce que ça veut dire. Mais voilà, dans ce récit, Dieu crée tout de façon merveilleuse. On ne comprend pas, mais c'est merveilleux, okay? Cohérent. Arrivé à la dernière création, sans doute la plus précieuse, la création de la femme, alors ça devient une histoire. Vous voyez tout de suite la scène, anesthésie, opération chirurgicale, et d'une côtelette. Voilà, et on lit ça, pieusement, profondément. Okay? Sans se rendre compte de quoi il s'agit. Alors, c'est clair? Alors, premièrement, il faut avouer qu'on ne comprend pas. Et ensuite, étudier pour arriver à comprendre de quoi il s'agit. Bon, mais rassurez-vous, c'est ça que le texte dit, apparemment, que la femme a été créée par le corps de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez, là, apparaît une règle que je peux vous donner. Si pour étudier la Torah, être capable de se donner. Il n'y a rien qui l'obtient. Il faut s'étonner. Mais s'étonner profondément. Et se dégager des habitudes de pensée de faire, comme on dit ça en français, j'ai oublié de l'inertie de la pensée, des clichés, des
préjugés.
De cet ordre. Et je crois que la seule règle, c'est ce que nous avons appris en arrivant en Israël, c'est que ce texte doit être compris en hébreu. Et toutes ces études que nous faisons en français, on peut le faire en tchécoslovaque, c'est des échafaudages. Et à partir du moment où la maison est construite, on enlève les échafaudages. C'est le texte. Et vous verrez la difficulté que nous avons d'étudier en français, parce que le français, d'abord, c'est pas l'hébreu, pour être une ligne d'étude, le français est une langue gréco-latine qui véhicule des notions chrétiennes. Et imaginez, il y a trois conflits de là, au niveau de la langue. Les Grecs, les Romains, les chrétiens, la Juive et les. Et on parle en français de contenu hébraïque. Vous voyez la difficulté? Non, mais j'ai vu ça. Vous donnez un l'écriture hébraïque, ça va de droite à gauche. Okay? Mais l'écriture française, ça va de gauche à droite. Laquelle des deux est à l'envers? Laquelle des deux est à l'envers? Ben, aucune. Chacune a son endroit. Okay? Ce qui serait à l'envers, c'est un hébreu qui écrit à l'envers, en français. Donc, il faut se mettre à l'envers. Eh bien, ça ne vaut pas seulement dans le sens de l'écriture, rotation de la terre ou pas, ça vaut dans l'ordre des notions. Voilà un exemple d'un grave conflit que nous avons avec le christianisme. Le christianisme a recueilli, emprunté des notions hébraïques d'origine, et il les a inversées, et ça fait une idolâtrie. Par exemple, la notion de le Fils de Dieu, c'est une notion authentiquement de la Torah. Veni Bechori Israël. Tu es mon Fils. C'est Dieu qui va prendre en parlant d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait le christianisme? L'inversé. On a fait Dieu le Fils. Ça, c'est une idée. Vous avez compris? Tout a changé. Ou bien, un autre exemple. Nous avons le Roi HaKodesh, l'Esprit de sainteté. Qu'est-ce qu'on fait les chrétiens avec le Saint-Esprit? Alors, chez nous, il fait des livres, chez nous, il fait des enfants. Rien à voir. Alors, je vais pouvoir cet effort de se hébraïser. Donc, voilà la première remarque que je voulais ajouter aujourd'hui. Je continuerai la prochaine fois. Et je la résume, cette première remarque, c'est que il y a un plan commun qui nous est donné en préface, projet, réalisation, jugement, séparation, bilan. Et puis, si c'est suffisamment bon, on passe à l'étape suivante. La deuxième remarque, que nous commencerons par étudier la prochaine fois, c'est qu'il y a écrit à la fin de chaque jour. Et ce fut soir, ce fut matin, jour 1, jour 2, il n'y a pas écrit encore, ce fut soir, ce fut matin, jour 7e. Réfléchissez à ça, et on va, qu'est-ce qu'on va apprendre? Nous sommes arrivés à la fin du troisième verset du deuxième chapitre. Okay. Alors peut-être, nous étudierons ça la prochaine fois, étudiez bien les trois premiers versets du deuxième chapitre.
Vous voyez la distorsion entre le projet et la réalisation. Pourquoi il y a une distorsion entre le projet et la réalisation?
J'ai employé des termes, après je vais aller sur le terme. Le projet de vérité, le monde absolu, la réalité, c'est quoi la réalité? Pose-moi la question.
Les gros.